le magazine des Nations Unies.
Dialogue politique en RDC. L'Union africaine a dépêché la semaine dernière M. Edem Kodjo pour des contacts avec les acteurs congolais. La MONUSCO a pour sa part déclaré être prête à appuyer le diplomate togolais dans sa mission. MONUSCO encore, le représentant spécial en RDC déterminé pour la protection des populations civiles. Il a dit lors de sa dernière tournée dans les deux Kivu. Vous suivrez Maman Sidikou dans cette édition. Enfin, le CICR aménage deux sources d'eau et réhabilite une salle d'opération à Chabunda. Dans ce magazine, vous suivrez aussi un responsable du Comité international de la Croix-Rouge, Sud Kivu.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine des Nations Unies. La semaine qui s'achève a été marquée, nous le disions, par la mission de l'envoyé spécial de la présidente de la Commission africaine, M. Edem Kodjo, a donc séjourné à Kinshasa du 19 au 21 janvier. Objectif de cette mission, mener des consultations en prévision de la tenue éventuelle d'un dialogue politique en RDC, initié par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le point sur cette visite avec vous, Jean-Pierre Lali Coco.
Oui, comme vous l'avez dit Tina, M. Edem Kodjo s'est entretenu le mardi 19 janvier, d'abord avec le président de la République, Joseph Kabila. Madame la présidente de l'Union africaine m'a dépêché ici pour voir avec le président et avec les responsables des parties prenantes de la donne congolaise les voies et moyens de mettre tout le monde ensemble autour d'une table pour un dialogue, a déclaré Edem Kodjo. Selon lui, le dialogue est toujours la voie royale pour parvenir à un résultat, allusion faite notamment aux éventuels obstacles lors des futures négociations. L'envoyé spécial de l'Union africaine a ensuite échangé avec le président de l'Assemblée nationale et celui de la CENI. En tout cas, rien n'a filtré de ces entretiens. Mais selon les rapporteurs de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, les échanges avec le président de la CENI ont porté sur l'état de la question électorale en RDC. Edem Kodjo a voulu obtenir un éclairage sur certains points auprès de cette institution citoyenne. On écoute le rapporteur de la CENI.
Le président avec les membres de l'Assemblée plénière de la CENI présents à Kinshasa viennent d'échanger avec l'envoyé spécial de Madame la présidente de l'Union africaine. Il avait les points sur lesquels il voulait avoir la lumière. Nous supposons que ça lui a été donné. Il n'est qu'au début de sa mission.
Est-ce que nous pouvons savoir ce point dont il voulait avoir la lumière?
Non, on ne souffrait pas. Souvenez-vous que les jours que nous publions les calendriers, nous étions présents dans ces bâtiments et dans la salle. Donc, il a les aspects multiples de la chose. Prenez patience. Ce qu'il nous a demandé reste dans le cadre de notre mission en tant qu'institution technique d'appui à la démocratie de la RDC.
L'envoyé spécial de l'Union africaine s'est entretenu aussi avec les autres acteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo. La MONUSCO, pour sa part, a annoncé son soutien technique et logistique à la mission de Edem Kodjo. Suivez à ce sujet les propos de Charles-Antoine Bambara, propos recueillis lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, c'était mercredi dernier.
Il faut dire que l'Union africaine va travailler main dans la main avec la communauté internationale dans son ensemble et notamment avec les Nations Unies de façon particulière. Monsieur Edem Kodjo a été choisi, c'est vrai, par l'Union africaine, mais il a tout de suite dit qu'il avait l'appui de la communauté internationale et notamment des Nations Unies ici en particulier, donc à RDC. Nous allons appuyer son action sur le terrain, mais c'est lui qui est le facilitateur. Nous allons apporter donc moyens logistiques, techniques pour accompagner cette médiation et nous allons essayer au niveau de la communauté internationale de l'accompagner dans cette mission afin qu'elle puisse porter des fers.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le Comité international de la Croix-Rouge, un CICR, est l'une des organisations humanitaires internationales actives dans la partie est du pays, notamment dans la province du Sud Kivu. Les populations de Tchonka et de Lulingu, en territoire de Chabunda, doivent à cette organisation l'aménagement des deux sources d'eau potable et la réhabilitation de la salle d'opération de l'hôpital général de Lulingu, ouvrage remis mercredi dernier aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie officielle. Ce sera d'ailleurs la nouvelle de province de ce dimanche. En attendant, Nous proposons l'entretien que notre collègue de Bukavu, Emmanuel Elameji, a eu avec messieurs Pierre-Yves Baréa. Il est chef de sous-délégation du CICR Sud-Kivu. Et cet entretien porte sur ses ouvrages et d'autres actions entreprises par cette organisation dans cette province. Suivez plutôt.
Bonjour monsieur Emmanuel, mon nom est Pierre-Yves Baréa. Je suis le chef de sous-délégation du CICR pour la province du Sud-Kivu.
Le CICR au Sud-Kivu qui inaugure ou qui est à la fin d'une réhabilitation de deux principaux ouvrages au nord du territoire de Chabunda, c'est à Lulingu. On peut savoir c'est quel type d'ouvrage?
Oui, tout à fait. Alors on a effectivement énormément travaillé ces dernières années, ces derniers mois dans cette région, notamment avec la phase de finalisation actuellement de deux adductions d'eau pour voir la population de Tchanka et de Lulingu, ainsi qu'une salle d'opération à l'AGR, à l'hôpital général de référence de Lulingu.
Vous conseillez estimer à combien les bénéficiaires?
Alors, au niveau de Lulingu, le système d'eau pourra fournir l'eau à l'ensemble de la population, c'est-à-dire environ 10 000 personnes. Le village de Tchanka est habité par environ 8 500 personnes et toutes ces personnes auront accès à l'eau dans des quantités amplement suffisantes. Pour la salle d'opération de l'hôpital, il s'agit bien évidemment de l'ensemble de la population de la zone de santé qui sera couverte par cette structure. Je ne connais malheureusement pas les chiffres, mais c'est un hôpital assez grand avec une centaine de lits.
Et Chabunda, c'est une zone où le CICR est vraiment présent depuis 2012. Depuis 2012 jusqu'à ce jour, à part ces deux ouvrages d'aujourd'hui, vous pouvez nous faire un petit bilan d'autres travaux que le CICR a fait de ce côté-là?
Effectivement, on est là depuis 2012. L'intention dès le début est essentiellement de répondre aux principales urgences humanitaires liées au conflit. Les toutes premières actions étaient essentiellement des interventions d'urgence pour les populations déplacées, en bien l'essentiel de ménage et en nourriture, l'évacuation des blessés, essentiellement les blessés par balles ou armes blanches, qui sont traités ici à Bukavu avec notre partenaire de l'HPGRB, l'hôpital général provincial de référence de Bukavu. Ces activités d'urgence, bien évidemment, continuent et elles sont également accompagnées d'interventions plus liées au secteur économique des populations sur place, notamment à travers des programmes agricoles et soutenus pendant tout un temps à travers des activités médicales, un soutien des structures médicales dans la zone de santé pendant plusieurs années. Là, à ce niveau-là, nous sommes juste en train de nous retirer car MSF est arrivé dans la zone.
On pense que ça n'a pas été facile. Vous vous êtes buté à des difficultés, on peut savoir, les plus importantes.
Effectivement, la situation est compliquée, la situation est volatile. Il est vrai que la gestion de la sécurité pour pouvoir être opérationnel, délivrer des services humanitaires dans cette zone-là est compliquée, mais gérable grâce au soutien de l'ensemble des personnes d'influence, les différentes autorités, les porteurs d'armes. Donc les difficultés sont là, mais c'est quelque chose qui est gérable à partir du moment où la nature de cette action purement humanitaire, neutre et indépendante est bien comprise par les acteurs. L'enclavement de la région est également quelque chose dont la population souffre au quotidien, notamment sur les différents aspects économiques. Et là, bien évidemment, pouvoir être opérationnel dans une telle zone nécessite une logistique importante. Et puis un dernier point, les besoins humanitaires sont très importants et variés. Donc il faut malheureusement pouvoir prioriser ces actions, aller là où les besoins sont les plus marqués et chercher à y répondre de la manière la plus efficace.
Le CICR a bénéficié quand même à Chabunda la collaboration des autres partenaires humanitaires en province.
Tout à fait, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à être présents. Jusqu'il y a peu, il y avait moins d'acteurs humanitaires. Au courant de l'année 2015, de nouveaux acteurs sont arrivés au profit de la population. Les choses se déroulent très bien. Il y a des mécanismes de coordination entre ces acteurs mis sur place. Et à nouveau, les besoins sont variés. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous continuons bien évidemment avec la spécificité du CICR qui est notamment de pouvoir travailler en matière de protection des populations civiles à travers un dialogue avec les porteurs d'armes quant au respect du droit international humanitaire.
Vous annonciez tout à l'heure que vous allez vous retirer dans quelques jours et le reste de la province du Sud que vous, les autres territoires, ils peuvent espérer pour le CICR?
On ne va pas se retirer de la zone de Chabunda. Nous sommes en train d'adapter nos activités. Effectivement, nous arrivons dans une grande phase aujourd'hui avec l'inauguration de ces adductions d'eau, de la salle d'op. Bien évidemment, nous allons continuer tout ce travail d'évacuation des blessés par balle en cas de nécessité, ce travail de dialogue avec les parties au conflit en matière de respect du droit international humanitaire. Nous allons continuer sur le secteur économique au niveau agricole. Donc, si vous voulez, nous ne sortons pas de la zone, mais nous nous adaptons. La grande différence, c'est que nous allons arrêter le soutien médical de différentes structures, vu l'arrivée d'MSF dans la région. Maintenant, nous sommes évidemment opérationnels dans d'autres parties du Sud Kivu, dans le territoire de Calais, dans la région de Walungu, dans la plaine de la Ruzizi et à Fizi.
Ici et là, est-ce que vous avez bénéficié de la collaboration de la communauté ou des communautés locales? Est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez fait?
Écoutez, satisfait, oui, dans la mesure où on a pu, je pense, apporter une aide essentielle à ces populations dans le besoin. Satisfait grâce au soutien de ces populations, des différentes autorités qui les représentent. Et sans ce soutien, bien évidemment, ce travail humanitaire ne pourrait pas être mis en œuvre. Nous sommes là, nous allons continuer, bien évidemment, aussi longtemps que les besoins sont là et aussi longtemps que la sécurité est assurée. Et pour ça, il est essentiel d'avoir ce soutien, d'avoir cette compréhension mutuelle et de pouvoir continuer. Les besoins sont toujours là, les challenges sont encore importants. Donc je pense que oui, effectivement, l'action humanitaire dans cette région est encore nécessaire.
Monsieur Pierre, nous vous disons merci d'avoir répondu aux questions de Radio Okapi.
Un grand merci à vous, Emmanuel, à Radio Okapi, pour nous permettre de nous exprimer. Ce qui se passe aujourd'hui est un exemple important du pouvoir d'adaptation des acteurs humanitaires. Il est important de s'adapter en fonction de la situation. Maintenant, une adaptation, comme dans cet exemple, ne veut pas dire un retrait. Nous continuons à rester sur place avec des programmes légèrement adaptés, avec à nouveau le soutien de l'ensemble des acteurs présents sur place. Et je vous en remercie.
Quelques nouvelles en bref. Du 13 au 18 janvier 2016, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a effectué une tournée dans l'est du pays. Maman Sidikou était notamment à Goma, en Nord Kivu, et à Bukavu, Lucena, Fizi et à Uvira. C'était une visite de prise de contact avec le personnel de la MONUSCO, les autorités et les populations locales de ces provinces. C'était aussi une visite de réconfort moral et de solidarité envers les réfugiés burundais du camp de Lucena. Restons à la MONUSCO, cette fois-ci dans la nouvelle province de Otuélé, où le sous-commissariat de la PNC de Douro, c'est à 90 km au nord de Dungu, est doté d'un nouveau bâtiment. Œuvre de UNPOL, initiée dans le cadre du programme des projets à impact rapide de la MONUSCO. L'ouvrage a coûté 30 000 $ américains. L'édifice comporte 4 bureaux équipés en mobilier et de 2 toilettes externes. L'heure est aux retraites des responsables à la fois des fonds, agences et programmes du système des Nations Unies, mais aussi de la MONUSCO. Les participants tentent d'identifier les domaines dans lesquels ils pourraient travailler plus et mieux ensemble. La stabilisation par exemple, mais aussi les opérations, Mission Support. Ils abordent les questions de programmation conjointe en phase avec la planification du gouvernement de la RDC. Les retraites communication, opérations et programmes ont en effet eu lieu la semaine dernière. La retraite de l'équipe de pays se tiendra au plus tard en février.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La tournée du chef de la MONUSCO dans l'est du pays, nous y revenons encore. À l'issue de cette tournée, le représentant spécial en RDC a accordé une interview à la radio de la paix. Au cours de cet entretien, Maman Sidikou a exprimé sa détermination à tout faire pour que la protection de la population, la mission première des forces de la MONUSCO, devienne une réalité. C'était en réaction à la tragédie de Miriki. Le magazine des Nations Unies revient sur cette interview réalisée à partir de Bukavu par Michel Chirimwami.
Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies RDC, bonjour et bienvenue à Bukavu.
Merci Michel.
Quel est l'objet de votre visite au Sud Kivu?
Il était nécessaire, important, que j'aille vers l'intérieur du pays, que je vois un peu les différentes régions, les provinces, en particulier le Nord Kivu et le Sud Kivu, où deux tiers de notre mission est déployée. Il s'agit pour moi aussi de me rapprocher davantage des populations civiles que nous sommes censés protéger, conformément à notre mandat. Ma visite dans la province du Sud Kivu en particulier s'inscrit dans le cadre normal de cette tournée. J'ai commencé il y a quelque temps au nord et je continuerai à aller un peu partout parce que je crois qu'un chef de la MONUSCO doit voir sur le terrain ce qui se passe. Être chef de la MONUSCO, c'est pas seulement être installé à Kinshasa dans des bureaux. Je crois qu'il faut prendre la température du terrain, s'inquiéter de la situation générale, pour pouvoir corriger des défaillances ou des gaps, comme diraient nos amis américains ou anglais.
Vous êtes rendu au camp des réfugiés burundais à Lusinda. Compte tenu de la situation qui se détériore dans leur pays au Burundi, et compte tenu aussi des plaintes par rapport aux conditions de séjour de ces réfugiés, qu'est-ce qui était votre sentiment?
Nous avons déjà près de 13 500 réfugiés à Lusinda. Je crois qu'il faut d'abord commencer par remercier les autorités congolaises pour avoir bien voulu accueillir en RDC au nom de la solidarité africaine et humaine, nos frères et sœurs Burundi qui passent par une phase difficile dans leur pays. Je pense aussi qu'il faut, et en particulier, saluer les populations de Lusinda, qui déjà ont des ressources quand même assez maigres, insuffisantes parfois, mais qui ont accueilli leurs frères et sœurs, je les ai vus intégrés, comme si, il y avait juste quelques mètres à passer pour se retrouver dans un pays autre, mais qui est en fait un peu leur pays aussi. Mais j'ai vraiment voulu me rendre à Lusinda pour voir de moi-même leur situation. Ils nous ont un peu les difficultés qu'il y a, nous en avons parlé avec le HCR. Il y a des mesures qui seront prises pour aider dans certains domaines, mais nous avons aussi appelé à, nous avons fait appel à leur sens des responsabilités. Vous savez, on a parlé d'infiltration, on a même trouvé une arme dans le camp une fois. Je crois qu'il faut faire très attention. Il faut que les mesures sécuritaires soient non seulement appliquées par les responsables sécuritaires, mais il faut aussi que les réfugiés nous aident à les aider dans ce domaine-là. La dernière chose que nous voulons, c'est les problèmes de type sécuritaire où il y a des armes à feu, où les gens se tirent dessus, etc. Bon, on n'en est pas encore là, mais il faut rester très vigilant. Je vais, moi, continuer à travailler, en particulier avec mon adjoint Mamadou Diallo, qui est le coordinateur résident pour le développement et l'humanitaire, mais aussi avec les différents acteurs humanitaires, les ONG, qui étaient sur le terrain également et qui font un travail remarquable. J'ai vu les écoles qui ont été agrandies, réaménagées pour que les enfants de réfugiés avec les enfants congolais de la région puissent avoir accès à l'éducation. J'ai vu tout le travail et tous les efforts faits en matière d'approvisionnement d'eau et d'eau potable. Le camp a commencé sur une colline, le camp est sur trois collines aujourd'hui. Donc il y a des choses à voir de plus près pour s'assurer que les choses se passent bien.
L'autre question préoccupante pour la RDC actuellement, c'est celle des élections. Dès vendredi, quand vous êtes arrivé, vous avez rencontré la société civile à Bukavu et cette question a été parmi les questions phares qui ont animé donc la rencontre. Est-ce que l'on peut dire que la MONUSCO a une solution pour accélérer le processus électoral?
Laissez-moi d'abord dire une chose concernant les réfugiés, les mouvements de population et la protection des populations. La MONUSCO n'est pas ici. Les autorités congolaises ne sont pas sur le terrain pour compter les morts. C'est pas ça notre rôle, comme ce qui s'est passé à Miriki. Nous devons prendre des dispositions à partir de maintenant pour nous assurer que cela ne se reproduise pas. En tout cas, il faut mettre en place tout ce qu'il faut comme mesures sécuritaires, il faut que nous soyons plus proactifs, il faut que nous reconsidérions comment nous faisons les choses pour que la mission prioritaire de la MONUSCO, la protection des populations, soit une réalité. C'est difficile, compte tenu de ce qui se passe sur le terrain, mais c'est cela notre responsabilité et j'insisterai auprès des forces des Nations Unies, j'insisterai auprès du personnel de la MONUSCO pour que cela se traduise davantage en réalité et que nous arrêtions d'avoir des tragédies qui peuvent être évitées. Maintenant, pour en revenir à votre question et à ma rencontre avec la société civile, nous avons eu une conversation franche, candide, comme disent les anglo-saxons, où ils nous ont parlé de ce qu'ils considèrent comme étant les manquements au niveau de la MONUSCO. Nous prenons note et nous avons décidé de nous revoir plus souvent pour qu'à la limite, ils nous fassent des exposés et qu'on ait un débat contradictoire pour améliorer les choses. Je pense aussi que comme nous allons voir les élections, ils ont un rôle important à jouer avec nous pour qu'on ait des élections paisibles, crédibles, transparentes bien entendu, mais où la violence sera absente. Parce que sinon, on va avoir d'autres problèmes. Vous avez dû apprendre que le secrétaire général des Nations Unies avait envoyé un émissaire pour explorer la possibilité d'une facilitation des élections. Ça ne s'est pas passé comme on aurait souhaité. L'Union africaine, parce que l'Union africaine est en charge du continent quand même, l'Union africaine vient de nommer un facilitateur. Nous, on espère, moi en tant que chef de la MONUSCO, j'espère que trouvera un terrain d'entente et nous sommes prêts à soutenir le facilitateur désigné par l'Union africaine. En termes de logistique, en termes de contact, mais évidemment, maintenant, la balle est dans son camp, et on nous dira de façon précise ce qu'on attend de nous, et nous, on dira ce qu'on peut faire. Mais franchement, je pense que il est bon que l'Afrique se prenne en charge. Je suis représentant du secrétaire des Nations Unies, mais je parle aussi en tant qu'Africain. Ce sera mieux pour nous tous, et on pourra plus fièrement dire, voilà, nous prenons nos affaires en main, nous pourrons aussi plus fièrement dire qu'on n'est pas des assistés éternels, nous pourrons aussi dire, et je parle là aux Congolais, toute classe politique confondue, majorité opposition. La situation du Congo, c'est vrai, ce n'est ni les Nations Unies, ni même l'UE à la limite. C'est d'abord le choix que feront les Congolais de s'entendre ou de ne pas s'entendre qui feront que les choses changeront. Et là, je voudrais revenir encore une fois vers les populations que nous avons besoin de protéger, Je voudrais dire ce que j'ai dit au Conseil de sécurité. Je viens de Somalie où j'ai vu des gens mourir à coups de AK-47. Je suis à la Eringeti du côté de Beni. J'ai vu des gens mourir à coups de machette. Et pendant ce temps, nous sommes occupés à autre chose. La politique, c'est le droit de chacun de la mener comme il l'entend. Les élections, les constitutions sont des droits des peuples, sont des choses à respecter. Mais au passage, n'oublions pas l'essentiel. Les gens au nom de qui nous nous battons pour le pouvoir, nous nous battons pour des élections crédibles et paisibles. On me verra beaucoup plus sur le terrain qu'à Kinshasa, je suis désolé de le dire, mais c'est ma responsabilité cela. C'est la mission qu'on m'a donnée première. Le reste, c'est le soutien évidemment au gouvernement, aux autorités du Congo, à avoir une présence plus grande sur le terrain. C'est le renforcement des capacités de nos amis de la PNC. C'est le travail en commun avec l'armée. Je pense que sur ce plan aussi, je suis à mesure de vous dire que les choses ont beaucoup évolué. Je parle parce que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité avec les plus hautes autorités de ce pays. Et les relations sont bonnes. Moi, je m'en réjouis. Et quand je l'ai dit au Conseil de sécurité, ils s'en sont réjouis, ils s'en sont félicités. C'est cela, je crois aussi, qui est important. Il y a pu y avoir quelques malentendus dans le passé. Mais tel que je vois les choses, ces malentendus sont bien dissipés, parce que j'ai vu tout le monde. Évidemment, dans tous les couples, il y a des choses. Enfin, vous êtes mariés, vous savez de quoi je parle. Ça va, ça vient. On peut ne pas s'entendre sur certaines choses. Mais souvent, c'est parce qu'on ne sait pas expliquer comme il faut. Et l'autre aspect, très important, c'est que s'il y a une perception que la souveraineté du pays n'est pas respectée, il y a un problème. Que ce soit ici au Congo ou ailleurs. Mais le Congo est membre des Nations Unies, membre à part entière, avec voix au chapitre. Donc je crois qu'il est bon que, dans nos relations, qu'il y ait respect mutuel, qu'il y ait écoute. Et c'est important. Je peux vous dire que le couple, bon, il est content d'être ensemble, c'est déjà ça. Je répète encore une fois, à nos gens de la MONUSCO qui écoutent ici, n'oublions pas notre rôle premier de protection des populations.
Merci beaucoup.
Merci.
Rendons-nous à présent ensuite Kivu. Les populations de Tchonka et Lulingu dans le territoire de Shabunda peuvent désormais accéder à l'eau potable. Des sources d'eau potable aménagées et une salle d'opération de l'hôpital général de Lulingu, réhabilitée, nous le disions, par le CICR, ont donc été remises à la population ce mercredi dernier à Shabunda. Les détails à partir de Bukavu avec Emmanuel et la Mejua Kabedi.
C'est des sources d'adduction d'eau qui viennent d'être réhabilitées par le CICR et la salle d'opération moderne à l'hôpital général de Lulingu couvre une population bénéficiaire estimée à plus de 20 000 personnes. Le comité international de la Croix-Rouge au sud Kivu, en partenariat avec la zone de santé de Lulingu, avait choisi ces ouvrages dans le souci de résoudre le problème d'accès aux soins de santé primaires et de réduire les taux de maladies hydriques. Selon les responsables du CICR au sud Kivu, ces travaux ont consisté en la démolition de la toiture jusqu'au mur avec tout le crépissage, le plafond, le raccordement d'eau, l'installation sanitaire et l'installation électrique sur tous les bâtiments avec une zone de déchets. Les travaux de réhabilitation de ces deux ouvrages à Shabunda ont commencé en mai 2015 et se sont terminés en décembre 2015 dernier. Les matériaux et autres matériels importés venaient par avion à partir de Bukavu. Cela étant, l'exécution des travaux s'est déroulée dans un contexte d'énormes défis sécuritaires et des contraintes logistiques sans précédent. Signalons que c'est depuis 2012 que le CICR est présent dans le territoire de Shabunda avec divers programmes d'assistance pour les populations affectées par des conflits armés. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu, pour le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je propose à présent d'écouter la question de notre confrère Jean-Marie Bakoumania. Il est de l'agence France Presse, AFP, et c'est le général Jean Bayot, commandant second des forces de la MONUSCO, qui a répondu à partir de Goma. C'était le mercredi dernier à la conférence hebdo des Nations Unies.
Bakoumania pour l'AFP. Je voudrais qu'on retourne à Mériki. Est-ce que les Nations Unies comptent présenter des excuses aux populations, comme ce fut à Moutaroulé?
Ce que nous avons fait, d'abord Daniel Louise, le chef de bureau de Goma, et moi-même, c'est que nous avons apporté notre compassion et nous avons parlé avec les victimes de ces crimes. Je pense que c'est ça qui est d'abord très important. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est que nous devons bien sûr tirer toutes les leçons et prendre toutes les responsabilités de ce qui s'est passé. Et le problème demande des réponses beaucoup plus larges. Ne comparons pas nécessairement la situation de Moutaroulé à celle de Mériki. Et regardons surtout, au-delà du crime condamnable de Mériki, quels sont encore les risques aujourd'hui et quelles sont les actions à entreprendre de manière à éviter non seulement de tels crimes qui se répètent, mais aussi d'autres.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je m'appelle Enoch Matondo Mvuizolo. Je suis marié, père de 3 enfants, 3 jolies filles. Je suis marié donc à Julie Tondo, une très jolie femme que j'aime beaucoup, et mes enfants, mes 3 filles. Il y a Matondo Prestevi Brenda, Matondo Borussia et Matondo Alice. J'ai commencé mes études comme tout enfant à l'âge de 7 ans. C'était ici à Kinshasa au collège Boboto. Après la deuxième primaire, je suis allé à Brazzaville où j'ai poursuivi mes études à l'école primaire d'application de plateau des 15 ans. Après l'école primaire, je suis allé au collège d'enseignement général Nganga Edouard où j'ai étudié avec beaucoup d'amis, notamment Moussundi Patiel que je salue en passant. Après le collège, je suis allé au lycée Chaminade, toujours à Brazzaville, où j'ai fait la série A, qui est une série littéraire. Et après là, j'ai décroché mon baccalauréat. Je suis revenu ici à Kinshasa où j'ai refait des examens d'état. J'ai obtenu mon diplôme d'état avec 61% en latin philo. Je suis rentré à Brazzaville donc pour l'université Bayardel où j'ai décroché un diplôme équivalent au diplôme de graduat ici à Kinshasa. C'était les années après la guerre, les diplômes du Congo-Brazzaville entre 93 et 2000 n'étaient pas considérés à l'extérieur, et je suis revenu à Kinshasa pour reprendre avec le journalisme ici à l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Je suis maintenant journaliste ici à la Radio Capi, au service des sports. Chaque matin, je viens présenter les chroniques sportives. Juste après la présentation de ces chroniques sportives, je me rends sur le terrain, notamment au stade Tata Raphaël, deux fois dans les stadiums, pour couvrir les rencontres de football et aussi des rencontres de basketball et certaines rencontres de handball ainsi que d'autres disciplines. Je couvre en tout cas presque toutes les disciplines, hein, même les sports de combat. Oui, avant la radio au Capi, j'ai d'abord commencé comme stagiaire à Canal Kin Télévision. C'était entre 2000 et 2004. C'est en 2005 qu'on va m'engager à Canal Kin Télévision. Malheureusement, 6 mois seulement après, pour des raisons politiques, j'ai été évincé de Canal Kin Télévision. Je suis allé à Africa TV et pour des mêmes raisons politiques, nous avons été remerciés par le boss. Et après Africa TV, je suis allé à Télé 7. Africa TV, j'étais directeur des informations et rédacteur en chef. Et à Télé 7, j'étais au début secrétaire de rédaction. Après, je suis redevenu journaliste simple. Et une fois, un collègue d'ici, Guy Maté, qui était avec moi à l'IFASIC, m'a informé qu'il y avait embauché ici à la Radio Capi. Je suis venu tenter ma chance et j'ai réussi le test. C'était en 2008. Nous avons passé le test avec mon collègue d'animation, Nico Kalambay, que je salue en passant. Là, j'étais retenu comme pigiste. En 2009, on avait remercié tous les pigistes. Nous étions partis. Je suis allé à Télé 50 où j'étais spécialisé en chronique internationale. Quelques 6 mois après, j'ai été rappelé à Radio Capi pour revenir au service des sports où je preste jusqu'à aujourd'hui. Auparavant, j'aimais aller me balader, aussi aller en boîte, mais avec la conviction chrétienne. En tout cas, mes temps libres, je les passe souvent à la maison en blaguant avec mes petites filles. Et en tout cas, comme tout mon Congo qui se respecte, j'aime manger le haricot servi avec du riz ou le nsakama des os, c'est-à-dire le haricot mélangé avec les feuilles de manioc servi avec du riz et aussi le mpumbwa. Sport préféré, j'aime le football et la natation. Malheureusement, je ne connais pas nager. Et comme projet d'avenir, sauf peut-être changement, mais je crois que Dieu m'amène vers la pastorale. Si un jour je deviens pasteur, en tout cas que les auditeurs de Radio Capi ne soient pas étonnés, parce que c'est le travail que je devais d'abord faire avant d'opter pour le journalisme. Si Dieu veut, je crois que je pourrais terminer ma vie en tant que pasteur ou prédicateur ou peut-être évangéliste international.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques journées à retenir, mesdames et messieurs. Le 27 janvier, c'est la journée internationale pour les victimes de l'Holocauste. Allons également dans votre agenda. Cette année, la journée mondiale des lépreux, traditionnellement célébrée le dernier week-end de janvier. Ça tombe donc cette année le 31. Voilà. Okay. déjà la fin du magazine des Nations Unies, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez réécouter ce magazine, le retrouver en tout cas via notre site internet. Vous connaissez l'adresse www.radiotapi.net. Merci à Honoré Missenga qui est à la coordination. Martha Sebujango à la supervision, Jean-Pierre Elalikoko au reportage et moi-même Sina Salama à la présentation, à la mise en onde de ce magazine, Bob Landou. Merci à tous, bon dimanche, à très bientôt sur Radio Capi. Ciao.